aujourd'hui dans Best-Seller, j'ai le plaisir de recevoir un invité que beaucoup de nos auditeurs connaissent et apprécient. J'ai nommé Michel Kishka. Bonjour Michel.
Bonjour Lise, comment allez-vous?
Ça va très bien. Alors Michel, vous avez deux passions en commun avec moi, la Belgique et Israël. Et là, vous venez de publier votre nouveau roman graphique qui s'appelle « L'autre Jérusalem » chez Dargo. Et ça fait des années, Michel, que vous habitez à Jérusalem maintenant. Racontez-nous un peu cet amour de Jérusalem que vous avez essayé de faire passer dans ce nouveau livre.
Le livre... Bon, le but, c'était pas de faire passer l'amour de Jérusalem, mais il passe. Le livre, en fait, il s'est créé dans ma tête, dans l'espace de temps de la pandémie, surtout la première année de la pandémie. Parce que bon, on était en Israël comme partout ailleurs, on était confinés, avec énormément de restrictions, et voilà, et les liens sociaux étaient réduits à leur plus simple expression, et en fait, chez moi, dans mon atelier, dans ce quartier calme de Jérusalem que j'habite, ce que je pouvais faire, c'était faire des petites balades dans des périmètres qui étaient autorisés selon les courbes des contaminations. Et en fait, ces promenades ont libéré un espace de réflexion où, en fait, qui m'a permis d'un peu faire un espèce de bilan, disons temporaire, 49 ans après que je sois venu m'installer ici, sur en fait... Sur mon parcours et sur ma place dans la société israélienne et sur mon rôle de dessinateur, d'enseignant, de père, de grand-père. Donc il y a tout ça qui est venu à moi lors de ces promenades. J'ai pris des notes, j'ai photographié mon quartier, la Moshava Germanit à Jérusalem, qui est un quartier très vert, très beau. Et grâce, vu la pandémie, il était vide, il était propre, il n'était pas pollué, il n'y avait personne dans les rues, il n'y avait pas de voiture. Il y avait une telle beauté qui se dégageait de ça que finalement le livre, c'est un livre qui est un peu une balade dans mon quartier, mais chaque balade est l'occasion d'une réflexion sur ce qui m'a amené à faire ce que je fais, les engagements en tant que dessinateur de presse que j'ai pris, ce qui m'a formé finalement, pourquoi je suis devenu le dessinateur que je suis. Donc tout ça est venu et j'ai décidé de lier tout ça dans une espèce de récit qui est une... Comme il y a des road movies, c'est un road comics, avec comme accompagnement mon éditrice Gisèle Dehaene, qui était, elle, chez Dargo à Paris, et moi à Jérusalem, et je lui envoyais ce que j'écrivais, je lui envoyais ce que je dessinais, et le livre s'est fabriqué pendant 3 années, avec des périodes où j'étais moins dedans, j'étais dans d'autres choses, mais disons, il a mis 3 ans à se faire. Il a mis 3 ans à se faire parce que c'est un livre qui est différent et de deuxième génération, qui avait une chronologie beaucoup plus simple, et différent de Falafel sauce piquante, qui est en fait, c'est l'histoire de mon amour d'Israël, de mon enfance à mon adolescence et à mon attachement à ce pays. Alors que là, je fais un peu des allers-retours, c'est un peu un patchwork, et c'est comme ça que je l'ai voulu. Voilà.
Alors, c'est un patchwork qui vous correspond bien, justement, et on vous voit jeune, on voit toute votre carrière, et on voit bien sûr tout ce qui compose votre identité, et vous dites à un moment, j'observe en israélien et je dessine en belge. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel?
Oui, ben oui, parce que voilà, je suis arrivé ici avec comme formation informelle, parce que je n'avais pas fait des études de dessin ou de graphisme. C'était la bande dessinée franco-belge. Donc, et quand j'ai commencé à illustrer en Israël, mon style était différent de celui des Israéliens natifs, parce qu'eux avaient grandi sur d'autres références, qui étaient la littérature enfantine et la caricature israélienne, qui est très différente de la belge. Donc on a quand même, je veux dire en Belgique, une très très belle tradition de ce côté-là, surtout en bande dessinée, mais aussi en dessin de presse, en peinture, enfin bref, disons que toute ma formation picturale informelle, c'est dans le berceau de mon enfance belge qui s'est développée, avec beaucoup de France aussi, parce que voilà, étant donné que je suis francophone, la culture franco-belge est ma culture. Donc, d'un côté, quand je dessine avec tout ce bagage que j'ai acquis, mais je dessine en tant qu'Israélien, ça y est, je suis resté belge, quelqu'un qui aime la Belgique. Mais je suis israélien depuis 49 ans Et c'est ici que je travaille, et c'est de la réalité israélienne que je parle. Donc c'est pour ça que je dis que je réfléchis en israélien et je dessine en belge. Voilà, c'est un peu une manière de me définir, de définir ma double culture, qui, je trouve, est un, c'est une belle richesse d'avoir plus qu'une culture.
Bien sûr. Alors, dans cet album, on ne le découvre pas, mais en tout cas, on le voit vraiment, que vous êtes engagé politiquement à gauche et particulièrement contre Benjamin Netanyahou. Il y a quelques pages assez peu sympathiques sur lui.
Ce n'est pas lui sur sa personne. Mais parce que, notamment dans Falafel sauce piquante, où je parle aussi de ma vie d'israélien, de citoyen israélien pendant les 45 premières années, la politique est en toile de fond, mais je n'ai pas parlé de façon spécifique de Netanyahou ou même d'un autre. J'ai juste mentionné l'assassinat de Rabin, qui a été un grand traumatisme. Alors que là, il s'est fait que voilà, il était, au moment de la pandémie, depuis déjà 12 ans au pouvoir. Il a tout fait pour s'y accrocher et y rester. Et une des choses qu'il est parvenu à faire, et on le voit maintenant dans toutes les rues d'Israël, il est parvenu à diviser la société israélienne avec des messages de haine. Et ça, j'ai pas pu faire l'impasse dans ce livre, parce que pendant la pandémie, il a politisé la campagne de vaccination, qui était citée en exemple dans le monde entier, parce que pour lui, c'était encore une manière de se maintenir en place, parce que c'est, ben, ça c'est mon point de vue, évidemment. J'imagine que pas tout le monde devrait être d'accord avec moi, mais c'est sa manière de se maintenir en place.
La société israélienne, elle n'était pas divisée avant Benjamin Netanyahou ? Vous qui êtes là depuis 49 ans.
C'était pas autant clivé. Et puis, il faut dire, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien directeur du Mossad, Argaman, d'accord, dans une interview unique qu'il a donnée à une grande journaliste, à Ilana Dayan, il y a quelques mois, où il dit qu'en fait, il a toujours travaillé avec Netanyahou, mais qu'à partir du moment où il a eu ces trois procès sur le dos, il y a quelque chose en lui qui a changé, et il se comporte comme un animal blessé. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour se maintenir en place, parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Et donc, il y a quelque chose de particulier dans le climat qu'il a fait en Israël, et puis le dernier gouvernement, l'actuel gouvernement, on n'a jamais eu un gouvernement aussi extrémiste, aussi à droite et aussi religieux que maintenant. Et ce ne sont pas... Je ne parle pas parce que je suis un gauchiste angoissé. Voilà, ils essayent de faire ce que le gouvernement appelle une réforme, mais ce n'est pas une réforme. Ils veulent changer la nature du pays. Ils veulent que la démocratie libérale majoritairement laïque d'Israël, tel que le pays a été créé, devienne ce que je peux appeler une théocratie dictatorielle. Grosso modo, c'est vers là que ça va. Les lois sont en train de passer les unes après les autres. Ça fait 27 semaines que des centaines de milliers d'Israéliens sont dans les rues. Et les seuls messages qu'on entend et qui émanent du gouvernement, ce sont des messages comme quoi nous, les manifestants, nous sommes les anarchistes. Que la situation d'Israël actuelle et la situation d'Israël dans le monde, aux yeux du monde, et la situation économique qui se détériore et la situation sécuritaire qui se détériore, c'est à cause des manifestations. C'est-à-dire que tout ce qu'il a toujours voulu faire passer et fait passer, son système fonctionne. Mais c'est un système qui est machiavélique. C'est un système qui est machiavélique parce que je ne sais pas ce qui va se passer avec ces lois, je ne sais pas ce qui va se passer avec cette réforme, mais le pays va soit aller complètement à la dérive, avec un avenir complètement sombre, je dirais même obscurantiste, soit il va falloir des années pour panser les blessures. Ça va être très très long. Parce que voilà, on sent bien que les supporters de ces réformes, ce qu'on appelle nous en Israël les bidistes, d'un côté, donc ce sont les inconditionnels de Netanyahou qui voient en lui l'équivalent d'un roi d'Israël, et les orthodoxes qui ont tout intérêt à ce qu'il reste en place parce qu'ils ont eu tous les budgets qu'ils voulaient, et l'extrême droite nationaliste, Ben-Gvir et Smotrich, d'accord ? Tous ces gens-là parviennent à faire passer dans leur message de haine que la gauche, ce sont des traîtres, d'accord ? Et voilà, donc puisqu'on est des traîtres, vous savez, il y a le siècle dernier, C'est ça qui, finalement, a créé le climat qui a mené à l'assassinat de Rabin. Et je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment en Israël est très, très grave. Bon, là, je viens de vous parler de la situation d'aujourd'hui, mais le livre, je l'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans. Donc, ce n'est pas de ça que je parle dans le livre. Je parle vraiment de la manière dont je... Voilà, à l'âge auquel j'arrive, et j'étais en train d'arriver à l'âge officiel de la retraite quand j'ai fait ce livre, j'étais à un stade dans la vie où voilà, je pensais que c'était intéressant un peu de me retourner sur ce que j'avais fait et d'un peu analyser tout ça et d'un peu expliquer et d'expliquer comment je vois la société, le pays qui est devenu Israël. Et c'est un peu ça mon propos et je l'ai fait avec de l'humour, avec des dessins joliment aquarellés parce que je voulais pas que ce soit un livre coup de poing, je voulais que ce soit un beau livre qui s'inscrit dans la trilogie. Finalement, il est le dernier volet d'une trilogie autobiographique de deuxième génération, enfin la Falafel Sauspiquante et l'autre Jérusalem. Et voilà, donc ça donne vraiment un tour d'horizon complet d'un jeune Belge qui vient s'installer en Israël, dont les parents sont des survivants de la Shoah et qui devient un dessinateur engagé dans ce pays. Voilà,
c'est vrai. Il y a un côté très poétique, Michel Kishka, dans cet album. Et un dessin à l'aquarelle, vous l'avez dit, comme un carnet de voyage. C'est paradoxal, alors que c'est finalement au moment où vous êtes assigné à résidence que vous faites un carnet de voyage.
Oui. Ben, c'est parce que d'abord, j'avais le temps. Et puis deuxièmement, j'étais émerveillé par la beauté de mon quartier, que je connais. Je le connais par cœur. Je peux m'y promener les yeux fermés. Mais la pandémie, les confinements ont commencé en mars, c'était grosso modo le début du printemps. Il y a beaucoup de nature dans tout le quartier où j'habite. La nature était d'une telle beauté que j'ai décidé que c'est elle que j'allais dessiner. Parce que justement, je trouve que ce qui est intéressant dans un roman graphique, c'est qu'on peut avoir un fossé qui questionne le lecteur entre le traitement graphique et le traitement textuel et le contenu. Et justement, le livre, il a l'apparence d'un carnet de voyage, d'accord, d'un voyage dans mon quartier. C'est pas vraiment un guide pour touristes, parce que c'est pas des quartiers où les touristes arrivent, c'est des quartiers où les gens vivent. Mais au fond, il y a un propos qui est grave par moments, et qui est philosophique, et qui est personnel. Et voilà, donc il y a une espèce de mélange entre la poésie et le propos j'espérais, grâce à ça, attacher le lecteur au récit. Parce que c'est pas un récit, c'est pas une aventure, c'est pas une bande dessinée classique, c'est très différent.
Alors, il y a quelques apartés qui sont sympathiques, notamment une explication sur les oiseaux qu'on n'attendrait pas forcément dans ce livre. Et vous parlez aussi de Bruegel et des nuages de la Belgique, Michel.
Oui. Ben, oui, parce que finalement, ces réflexions que j'ai eues, m'ont fait ressentir avec encore plus de force, je l'ai toujours su, mais c'était encore plus fort, que finalement, dans ce berceau de ma culture qui a été la Belgique, eh bien, il y avait les œuvres de Bruegel que j'ai découvertes quand j'étais gosse, dans des livres, j'allais pas dans les musées, mais je voyais des reproductions de ces œuvres, notamment un excellent Bruegel sur le couvercle d'une boîte de biscuits, et que j'adorais regarder, une grande boîte, et j'ai toujours été attiré par le surréalisme de Magritte, par sa beauté, et aussi par sa dualité, justement, entre ce qu'on voit sur la toile et le nom qu'il donne à la toile et l'interprétation qu'il y a derrière l'image qu'il a créée. C'est ça qui est très intéressant dans le surréalisme. Et par hasard, c'est belge, comme Bruegel. Et y en a plein d'autres. Il y a aussi Folon, il y a aussi toute la bande dessinée franco-belge. Donc, finalement, j'ai trouvé que c'était juste de les citer, de leur rendre hommage au passage.
Alors, vous racontez aussi, Michel Kishka, comment vous êtes invité à venir dessiner en direct à partir de 1977 sur la deuxième chaîne, dans le Morning News. Et on vous voit aussi comme enseignant de bande dessinée. Comment expliquer quand même, Michel, qu'en Israël, la bande dessinée soit finalement si peu dans la culture populaire, on va dire?
Oui, alors, dans le livre, j'ai commis une petite erreur. J'ai mis 77, mais c'est 97, mais c'est pas grave.
Ah.
Voilà. Et pourtant, c'est moi qui l'ai écrit. Ça n'a pas été tapé par quelqu'un d'autre. Oui, je l'ai. En lisant mon livre, je me suis rendu compte que j'avais oublié 20 ans. Mais non, ce qu'il y a, c'est que la bande dessinée n'a jamais fait partie naturelle de la culture en Israël. Il y a beaucoup de choses culturelles israéliennes qui sont, qui ont été importés des différentes diasporas. Et la peinture d'Europe, l'orfèvrerie du Yémen et du Maroc, la tapisserie de Boukhara. Donc il y a tout ce savoir-faire qu'il y avait dans des tas de communautés juives partout dans le monde, bien avant la création de l'État d'Israël, des artisans sont venus et ils ont commencé à travailler ici avec le savoir-faire qu'ils avaient amené avec eux. Et la bande dessinée n'est pas arrivée. Et la bande dessinée, elle a mis du temps à exister, à se créer. Il y avait le dessin de presse qui était existant, qui était très fort. Sous l'époque du mandat britannique, il y avait beaucoup de caricatures contre le mandat britannique. Et il y avait des caricatures pendant la Seconde Guerre mondiale contre Hitler en Israël, dans la presse. Il y avait de très bons caricaturistes et il y avait beaucoup de journaux. Les journaux, il n'y avait que les journaux et la radio. Il n'y avait pas encore de télé, il n'y avait pas encore d'Internet. Donc les journaux avaient vraiment le monopole de l'information et la presse. Donc ça a toujours été un art très fort. Et la bande dessinée, ça a toujours été quelque chose d'un peu mineur. Et puis voilà, avec les années, disons, dans les 30 dernières années, ça a commencé à se développer. Et aujourd'hui, on a d'excellents auteurs de bande dessinée israéliens qui publient à l'étranger, reçoivent des prix. Vous avez Rutu Modan, vous avez Asaf Hanouka, vous avez David Polonsky qui a fait le
Vals avec Bachir.
Harry Folman qui a fait le journal d'Anne Frank en roman graphique. Il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, je cite quelques-uns qui me viennent à l'esprit en premier. Et tous racontent des histoires israéliennes finalement. Tous racontent des histoires soit vécues, soit des fictions basées sur le réel. Et ça intéresse beaucoup le monde parce que la bande dessinée, surtout dans le monde occidental et surtout évidemment dans la Franco-Belgique, mais pas que, est très importante dans la culture. Et voilà, donc il y a une présence et puis il y a plus qu'une école d'art aujourd'hui. Quand je suis arrivé en Israël, il y en avait juste une, c'était l'Académie Bezalel où j'ai fait mes études, où je suis prof.
Ouais.
On a 3-4 bonnes écoles où il y a des BDistes qui donnent des cours de bande dessinée et chaque année, il y a des nouveaux talents qui sortent sur le marché et petit à petit, tout ça va s'éclore, ça va faire un grand jardin plein de fleurs.
Ma dernière question, Michel Kishka, est-ce qu'aujourd'hui, dessiner, c'est dangereux ?
Écoutez, c'est une question qu'on pose depuis les émeutes qu'il y a eu contre les caricatures danoises en 2006, et c'est une question qu'on a reposée après les attentats de Charlie Hebdo en 2015.
Ouais.
Alors, disons que le danger aujourd'hui qu'il y a dans le dessin, il y a deux dangers. Le premier, c'est d'être lynché par les réseaux sociaux, c'est-à-dire lynché virtuellement, attaqué par les réseaux sociaux, injurié, menacé de manière organisée. Ce n'est pas des individus isolés qui font ça en général. Et ça peut provoquer chez les personnes chez les éditeurs de journaux, chez les rédacteurs qui utilisent les dessinateurs, une certaine réticence à publier certains dessins. D'un autre côté, il y a quand même pas mal de dessinateurs qui ont été menacés physiquement. Je ne parle pas de ceux de Charlie Hebdo parce que c'est un cas exceptionnel, mais il y a eu des tentatives d'assassinat d'autres dessinateurs. Il y a des dessinateurs qui sont obligés de s'exiler. Il y a des Iraniens en Europe, il y a des gens d'autres pays d'Asie, de pays d'Afrique qui ne peuvent pas travailler librement dans les pays où ils sont en Afrique, mais il y a aussi des dessinateurs en Europe et des dessinateurs aux États-Unis qui ont perdu leur travail à cause d'un dessin qui a déplu à un certain public ou à une certaine rédaction. Donc la menace, elle est même une menace de la liberté d'expression et aussi de la survie économique de ces dessinateurs. Donc je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué qu'avant. Il faut ne pas avoir peur. Plus intelligent que ceux qui nous attaquent. Il faut faire des dessins qui sont inattaquables et irréprochables. Mais de toute façon, dans ce métier, et ça on s'en est bien rendu compte, quoi qu'on fasse, il y aura toujours un public auquel on va déplaire. Il y aura toujours des empêcheurs de dessiner en rond qui voudront que vous ne dessiniez plus. Si jamais les dessinateurs et les dessinatrices, parce qu'il y a de plus en plus de dessinatrices dans le métier, et c'est très très bien d'ailleurs, quelques-unes qui font un travail extraordinaire, j'en connais beaucoup dans le monde, si on commence à poser nos crayons ou à s'auto-censurer plus qu'il ne le faudrait, parce qu'on a tous en soi, on porte une certaine mesure d'autocensure. On ne s'autorise pas à faire n'importe quoi. Surtout dans la grande presse, je ne parle pas de la presse satirique, où on peut se permettre plus de liberté, plus d'outrance et plus d'irrévérence, parce que c'est la nature de la presse satirique. Si on a tous trop peur, finalement, on fera des petits dessins mièvres qui ne diront rien. Et je pense que les lecteurs des médias, qu'ils soient en ligne ou qu'ils soient sur papier, au fond, ils aiment ces dessins. Ils aiment ces dessins. Ils aiment voir jusqu'où on ose aller. C'est comme les gens qui vont voir un stand-up, où il y a un stand-upiste sur scène qui parfois les prend à partie et même se moque d'eux, et ça les fait rire, les gens. Ils ne se lèvent pas pour aller le frapper. Il y a quelque chose dans cette capacité d'autodérision que parviennent à toucher les stand-upistes, que les dessinateurs aussi qui font un bon travail parviennent aussi à toucher, et qui permettent aux gens qui ne sont pas d'accord avec vous de quand même sourire de votre travail et de considérer que cette liberté d'expression, il ne faut pas vous la retirer. Donc finalement, si tous finissent par dessiner des choses qui vont plaire à tout le monde, alors il n'y aura plus de dessin de presse, il n'y aura plus que de la propagande. Et ça, ce n'est pas mon métier.
Non, et ce n'est pas non plus celui de Radio Judaïka. Merci beaucoup, Michel Kishka, pour votre franchise, pour cet album « L'autre Jérusalem » qui est à la fois très beau et qui fait réfléchir. À très vite pour le reste de vos aventures.
Merci beaucoup, Lise.
Au revoir.
Au revoir.